Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Il
ne faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers lecteurs et chères lectrices. Merci d'être à l'écoute de 48FM pour votre émission littéraire Un livre sur le zinc en partenariat avec la médiathèque départementale de Lozère. Et c'est une émission spéciale ce soir à plusieurs titres. Tout d'abord, car c'est la dernière de l'année en ce mois de juin 2023. Oh. Et oui, Valérie, une dernière avant une pause estivale bien méritée et un retour prévu pour septembre. Bon, bien entendu. Tout cet été, vous pourrez retrouver les rediffusions de cette saison qui se termine. Émission spéciale, car Claire a demandé à reporter l'horaire de cette émission. Avant de demander de reporter le report de l'horaire de cette émission, en gros, elle n'aurait pu jamais avoir vu le jour. Mais on a tenu bon, malgré la défection de Claire, à la dernière minute spéciale, car nous allons aussi parler de l'excellence, des récompenses qui reconnaissent la qualité d'une œuvre, les prix littéraires. Et enfin, spéciale, car nous avons choisi des prix littéraires qui correspondent à nos années de naissance. Alors Nico n'est pas là aujourd'hui, il aurait ainsi pu nous parler du premier prix littéraire créé en 1901, il s'agissait du prix Nobel de littérature. Ainsi, Pauline va nous parler du prix Renaudot de Christian Guidicelli, station balnéaire. Bonsoir Pauline.
Bonsoir tout le monde.
J'évoquerai le Goncourt de celui qui est à l'heure actuelle le président de l'Académie Goncourt, mais à l'époque c'était un tout jeune homme d'une trentaine d'années, Didier Decoin pour John Lanfer. Deux livres pour Valérie, L'enfant d'Édouard de François-Olivier Rousseau, prix Médicis et La nuit du décret de Michel Del Castillo, prix Renaudot. Salut Valérie.
Hello.
Enfin, Marlène qui va arriver va nous présenter Le jour de la comtesse de Chartres. Je ne sais pas quel prix, ça sera la surprise.
Mais je suis de la même année que Marlène alors.
Absolument.
Ah, incroyable.
Ouais. Valérie, on va commencer d'ailleurs par toi qui a deux livres à présenter avec L'enfant d'Édouard de François-Olivier Rousseau, prix Médicis.
Oui. Est-ce que tu veux parler de François-Olivier Rousseau ou pas du tout ?
Si tu veux.
Soit. Et après, je parlerai de L'enfant d'Édouard.
Allez.
Et qui est Édouard ?
Et c'est qui ? Alors, il est né le 20 septembre 1947 à Boulogne. C'est un journaliste et écrivain français, jeune critique littéraire. Au Matin de Paris, à la fin des années 70, il devient romancier, rencontre un certain succès, se voit décerner plusieurs prix littéraires, dont le prix...
Médicis, en 1981.
Voilà, absolument, ce qui lui donne envie de quitter Paris pour l'air vif de l'île de Mans, où il s'installe dans la capitale. Douglas, bourgade d'à peine plus de 20 000 habitants, il ne se consacre plus qu'à l'écriture entre deux voyages pour alimenter. Il déteste la France. Français détestant la France, spécialiste de la période qui va de Napoléon III à la Première Guerre mondiale, qu'il juge être un accident qui lui est incompréhensible. Il essaye de comprendre ce qui a pu susciter cette manifestation de l'instinct de mort de l'Occident et se plaît à rêver de ce qu'aurait été ce siècle sans la guerre.
La vache.
Ça va, tu veux que
je... Si j'avais su, je ne l'aurais pas lu.
Voilà. Il réside actuellement au Maroc.
Ah oui, non, il a vraiment une animosité féroce. C'est marrant, pourquoi ? Tu ne l'as pas lu ?
Pourquoi il n'aime pas la France ? Je ne sais pas.
Bah, c'est totalement loin, très loin de ce que laisse paraître l'écriture du livre, si ce n'est que le protagoniste de mon livre, son petit surnom c'est Duck, comme Duck le canard, mais enfin, c'est effectivement très américain. Mais à part ça, tout se déroule en France. Donc L'enfant d'Édouard, c'est une histoire qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui est surprenante et qui est agréable par son écriture. Alors pourquoi est-ce qu'il a eu un prix Médicis ? Certainement parce qu'il y avait beaucoup moins de choix que ce qu'il peut y avoir maintenant en termes de quantité d'auteurs prolifiques. Et voilà. Puis après, je crois qu'en 81, il n'y avait encore que les femmes qui étaient possiblement nommées.
C'est possible.
Ça doit être cette période-là.
Ça doit être là, ouais. On doit être pas mal. Puis après, tout a changé en 1981. Le monde s'est éveillé. Voilà. C'est parce que Marlène et moi sommes nés cette année-là, pas du tout par rapport à la politique, évidemment.
D'accord, oui.
Donc, Duck, cet enfant, il est le fils d'Édouard Mérac. Édouard Mérac, c'est un acteur qui est assez détestable, assez puant. Et ce petit enfant Duck, il est élevé par sa grand-mère, qui par contre, elle est totalement fantasque, totalement attirée par, par le, la jet set, par cette vie mondaine, et qui essaye d'en prendre les us et coutumes par l'intermédiaire de son fils, donc le fameux papa de Duck, qui va vivre une histoire d'amour avec une comtesse. Enfin voilà, c'est assez... voilà, une grammaire un peu qui donne, j'allais dire, de la couleur à cette histoire. Et ensuite, donc, l'histoire de Duck qui au gré des pérégrinations de son père, qui voyage beaucoup, le rencontre quelques jours, quelques heures, quelques semaines, dans des hôtels, dans des lieux différents, là où Édouard Meyrac tourne ses films, puisqu'il est comédien. Et on sent toute la frustration qu'a ce petit Duck de ne pas arriver à tisser des liens avec ce père qui donne l'impression de s'occuper de de s'intéresser à son fils, parce que c'est pas parce qu'il ne le voit pas ou qu'il n'est pas là qu'il est obligé de ne pas porter de l'attention. Mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Et en fait, le fil rouge de ce roman, ça va être les femmes. Édouard Meyrac est vraiment ce qu'on appelle un homme à femme, mais alors dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'il en a autant que de séjours dans diverses villes. Et chaque fois, donc le jeune Duck raconte la rencontre avec ces femmes-là, et il les décrit, le temps qu'il passe avec, comment ces femmes parfois sont gentilles avec lui, des fois non. Alors, cette histoire-là, elle est bof. Enfin, moi, ça ne m'a pas touchée plus que ça, si ce n'est qu'on a un petit conflit père-fils.
Oui, ça a l'air un peu glauque, non ?
Voilà, mais par contre, c'est l'écriture. Alors, l'écriture, l'histoire, elle est un peu pathos. Elle a rien de transcendante. Moi, ça ne m'a pas laissé un souvenir. Enfin, ça ne me laissera pas un souvenir impérissable, malgré son prix Médicis. Mais par contre, l'écriture est hyper intéressante. L'écriture, c'est lent, c'est plein de détails, et l'écriture est très belle. Et pour moi, il y a donc oui, mérité un prix par rapport à cette façon d'écrire. Il a une très très belle écriture, mais alors par contre, l'histoire, bof, voilà. Mais l'écriture permet d'aller au bout de l'histoire. Puis bon, il y a un fond de Seconde Guerre mondiale, il y a le producteur du film qui accompagne le père qui est juif. Donc du coup, il y a quand même ces petites choses derrière qui vont alimenter, qui vont faire construire aussi ce petit Duck. Mais sinon, voilà. Heureusement, la plume de François-Olivier Rousseau, qui ne tient rien de son homologue Rousseau, permet d'aller au bout de l'histoire.
Alors on verra dans les autres livres, j'ai l'impression qu'il y a des ambiances assez moroses dans tous nos livres. Alors je ne sais pas si c'est la fin des Trente Glorieuses, le début de la crise pétrolière, et on arrive dans un esprit un peu plus sombre.
Moi, toute ma chronique, j'ai l'impression, au-delà de sans l'histoire, va ressembler à la tienne.
D'accord.
C'est très rigolo. Oui. Alors moi, c'est les années 80 aussi, et je pense qu'on récompensait un peu les mêmes choses. De l'écriture plus que...
Oui, de l'homme qui sait écrire plus que l'histoire. Alors, j'ai pas tout à fait le même avis sur le deuxième. Peut-être viendra contrebalancer si je peux en parler à la fin.
Ah oui, mais tu en parleras. Ouais.
Après... bon, c'était le sujet de parler des prix littéraires, mais voilà, ça...
Mais ça montre que la littérature a sacrément évolué aussi.
Oui, hein. Et t'as mieux. En fait, aujourd'hui, on se plaint parce qu'on a trop de choix quand il y a les rentrées littéraires, mais aussi, ça donne un éventail d'écriture. Et des fois, c'est assez ambivalent parce que parfois, je sais qu'il me manque... cette écriture un peu soutenue, un peu travaillée. Mais là, finalement, j'ai une écriture travaillée entre les mêmes, puisque tout le roman est très, très, très bien écrit. Mais l'histoire m'a pas émue plus que ça. Voilà.
Super, merci. Merci Valérie. Mais je voulais pas te faire parler maintenant, mais Pauline, mais je vais te donner la parole, vu qu'il y a des similitudes avec le livre de Valérie. Mm-hmm. Je reprends mes notes. Voilà, alors c'est prix Renaudot.
Oui, il faut que tu parles de mon auteur, visiblement.
Oui, il faut que je parle de ton auteur. Oh là là.
Attends, tu nous demandes à chaque fois.
Moi, je ne me suis pas préparée, mais.
Biographie, on n'attend pas.
Non, mais c'est qu'il a une histoire particulière, c'est pour ça. Christian Giudicelli, le prix Renaudot pour Station Balnéaire. Est-ce que tu veux que je parle avant de lui ou après ?
Vas-y, lance-toi.
Alors déjà, il est nîmois, donc bon, voilà.
C'était mal barré.
Et c'était mal barré. Non, oh là je déconne.
Éternel conflit.
Il est né à Nîmes en juin 42, il est mort en mai 22. Non, c'était juste pour dire par rapport, parce qu'on en parlait en off avec Pauline de sa vie, Pauline qui n'avait pas lu du tout sa vie et qui s'est reconnue dans son histoire personnelle, mm-hmm. par rapport au livre qu'il avait écrit bien des années avant. Bon, il a intégré France Culture, correspondant de l'Académie de Nîmes, intègre le jury Renaudot. Voilà, il a une grande histoire professionnelle, hein, très intéressante. Figaro Magazine, La Quinzaine littéraire, Écrivain Magazine, etc., etc., etc. On en a entendu parler de cette personne car c'était un très proche de Gabriel Masneff, qui était son éditeur chez Gallimard, qui se définit comme son fidèle complice. Donc, si pour ceux qui se rappellent l'histoire, il a accompagné dans certains de ses voyages à Manille durant les années 80.
Complice jusqu'où ?
Voilà, il aurait reconnu ensuite des relations sexuelles avec des mineurs dans ce cadre-là. Il le défend aussi au Renaudot en 2013 pour que le jury lui décerne le prix de l'essai. Voilà, il cède l'un et l'autre, il se protège l'un et l'autre. En 2020, Mediapart rapporte que dans le cadre de l'enquête pour viol commis sur mineurs de moins de 15 ans visant Masneff, des écrits de ce dernier qui seraient conservés par Giudicelli sont recherchés par la police. Enfin voilà, il est mort avant qu'on retrouve tout ça en mai 2022 des suites d'un cancer à l'âge de 79 ans. Voilà pour l'histoire qui peut-être...
Qui est tout aussi sordide que mon livre.
Voilà. Tant pis pour lui.
Alors moi, je n'étais pas partie de son profil. J'étais partie, alors je ne sais pas si vous connaissez ce film sur l'héroïne qui s'appelle Requiem for a Dream. Un film absolument atroce où tu te sens mal tout le long parce que les personnages ne font que de souffrir et se mettent eux-mêmes dans une souffrance et tu en ressors, t'es complètement... voilà, tu t'en remets pas. Et ben, ce livre m'a fait le même effet. Voilà. Alors, il y a quand même une très grosse particularité, c'est qu'il n'y a pas du tout... Il n'en rajoute pas des couches, Christian Giudicelli. Il est très... C'est très dénudé comme histoire. Il rajoute pas... Il n'y a pas le pathos à l'excès. C'est vraiment... Il est allé dans la simplicité. On n'entend pas une musique glauque dans ses oreilles. Il n'en rajoute pas des couches. Il raconte une histoire simple. Mais sur le papier, quand je vais vous la raconter, elle ne va pas peut-être pas vous paraître si sordide. Mais au final, elle est atroce. J'ai fermé le livre. Je suis restée coincée. Vraiment, pas bien. Donc, pour l'histoire, c'est l'histoire de Marie et José. Ils doivent avoir entre 20 et 25 ans. Ils travaillent dans le même hôtel. Et un jour, ils se croisent à une terrasse de café. Et là, ils tombent éperdument amoureux. C'est des amoureux comme des enfants peuvent être amoureux. Vraiment, alors on les entend penser, ils discutent, etc. On dirait vraiment des commentaires d'enfants. Je suis amoureux de toi, je t'aime, t'es belle, t'es merveilleuse. Et puis, je te déteste et c'est atroce. Enfin, voilà, ils vivent l'amour comme des enfants. Et donc, évidemment, ils décident de s'enfuir et de partir sur la Côte d'Azur parce que c'est là que tout se passe, que tout est merveilleux, et de dépenser tout leur argent pour vivre une vie de rêve. Bon, au final, ils vont pas sur la Côte d'Azur. On suppose qu'ils vont du côté de la Grande Motte et compagnie. Voilà, ça fait tout autant rêver.
Ouais.
Et donc... Ce José, là, on dirait qu'il a 10 ans, il rêve d'être riche, il pense qu'il est beau, il pense qu'il danse bien, mais il lui manque la moitié des dents de devant, il a toujours des vieilles fringues dégueulasses. Marie, elle est complètement naïve, complètement innocente, et elle est émerveillée par ce José qui est parfois violent dans ses paroles, dans ses gestes, et puis qui, deux minutes après, l'aime encore plus. Leur relation est extrêmement malsaine, extrêmement... avec ce côté enfantin, et c'est ça, je crois, qui m'a mis très, très mal à l'aise. C'est que, voilà, ils vivent cette histoire d'amour, et donc, à l'hôtel et sur la plage, il ne se passe rien de particulier. Mais c'est très malsain. C'est très... Ça m'a gênée. En parallèle de leur devis, on suit certains de leurs proches, l'ex-amant de José qui est auteur et qui a pour projet, et ça m'a plu, d'écrire une histoire sur José et Marie. Et donc, il explique la démarche un peu qu'a fait, je suppose, Christian Giudicelli pour écrire son livre. Donc, ce personnage de Jacques, là, l'amant auteur, m'a plu parce que j'ai reconnu, je pense, l'auteur qui a écrit Station balnéaire. Et alors, un personnage qui m'a, lui, m'a bouleversé, c'est le père de Marie. Le père de Marie qui a passé toutes ses premières années de mariage à tromper sa femme, à la détester, à la haïr, à être mauvais, et qui, à partir du jour où elle est décédée, l'a complètement, s'est mis à se dire que c'était une femme merveilleuse, fabuleuse, etc., a sombré peu à peu dans l'alcoolisme, la folie, et a projeté l'image de sa femme sur sa fille. Donc, il délire complètement. Chaque fois que sa fille vient le voir, il pense que c'est sa femme.
Enfin, oh là là.
Donc, tu n'en peux plus. Voilà.
C'est pas du tout étouffant.
Voilà, mais tout à fait. Tu vois, le mot étouffant ne... Donc, ça ne s'arrête jamais. Évidemment, ça finit extrêmement mal pour tout le monde. Voilà, je n'ai pas besoin de dévoiler, on le sent venir. Mais, comme toi, l'écriture est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a, c'est une écriture parfois lente, douce, enfantine. Et puis, d'un coup, ça accélère avec l'accélération de l'action. L'écriture t'emporte complètement, et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai tenu jusqu'au bout, malgré ce côté extrêmement... C'est pas sombre, c'est pas glauque, parce qu'en soi, je peux pas vous citer de scènes vraiment très malsaines, mais toute cette ambiance qui règne, mais cette écriture est incroyable. Elle est riche et simple à la fois, et elle t'emporte complètement, et elle te fait tenir et jusqu'à la dernière ligne, sans problème. Donc c'est là où je me suis retrouvée un peu dans ta chronique, Valérie, c'est que c'est un livre qui est quand même énormément porté par son écriture.
Peut-être qu'à l'époque, on recherchait ça pour les prix littéraires avant toute chose. Hein. Voilà,
oui, ce qu'elle disait.
La forme plus que le fond. Hein.
Ah oui, parce que le fond a quelque chose. Hein. C'est une histoire très particulière, mais qui, moi, m'a dérangée plus qu'elle m'a enchantée.
Oui, tu m'étonnes. Ouais. Ok, voilà. Mais ça donne pas envie de lire vos livres.
Mais de toute façon, personne ne t'oblige.
Voilà, c'est voilà. Ça. Tiens, on va changer. On va faire un peu la pause musicale maintenant. On va voir si Marlène arrive ou pas.
Tu mets un truc qui détend.
Je vais mettre un truc qui détend et comme ça, on revient après.
Allez. Far away, far away, far, far away. I wanna go, I wanna go someday. Je ne sais pas si je vais y aller, dans ma tête ou avec mes pieds, mes pensées posées sur l'asphalte. Je m'imagine une vie pepper and salt, sans reflet sur le glacé de mes Ray-Ban. Je glâme, je me pavane. Far away, far away, far, far away. I wanna go, I wanna go someday. Je ne sais pas si je vais y aller en solo ou accompagné, dormant le jour, marchant la nuit. Je m'enivre sans vodka, sans whisky, sur les eaux calmes de mon waterbed. Je traîne, et tu m'entraînes. Far away, far away, far, far away. I wanna go, I wanna go
far away, far away, far,
Allez, on est de retour pour cette seconde partie d'émission. Et tiens, je vais parler d'un concours. Je vous l'ai dit en préambule, donc c'est Didier Decoin, celui qui est actuellement le président de l'Académie Goncourt.
1968 ?
Non, 77, cher ami. C'est pas beau. 77, et ça a son importance d'ailleurs. Parfait. Car il nous parle de New York. Alors, il faut savoir qu'il fait partie de tous ces écrivains français qui ont adoré New York pendant des années, et tous ces mêmes écrivains français qui, quelques années plus tard, ont détesté New York et l'ont fait savoir dans leurs livres. Et ce livre en fait partie. Ce livre qui est écrit, qui est sorti en 77. Je vais rechercher dans mes notes, parce qu'il a écrit un premier livre donc, où il mettait en avant... vas-y, tu peux le prendre, Pauline. Où il mettait en avant cette ville de New York, je n'ai plus le nom, blablabla... Abraham de Brooklyn, voilà, son premier livre. Alors, John l'Enfer, c'est l'histoire de trois destins liés dans un New York délabré, donc rongé de l'intérieur, où les gratte-ciel se fissurent, une lèpre ronge les immeubles de la ville qui menace de s'effondrer à tout moment. Et qui peut mieux ressentir cela que John l'Enfer, lui, un indien Cheyenne, laveur de vitres sur ses gratte-ciel, insensible au vertige, du moins jusqu'à son licenciement, et qui coïncide avec la rencontre de Dorothy Kane, une jeune sociologue qu'un accident de surf a rendu momentanément aveugle, et d'Ashton Misha, juif hanté par sa Pologne natale, qui vit ici son ultime exil, un capitaine en second de navire de croisière cloué à quai par une appendicite.
Ça fait Village People version livre.
Voilà, alors quand j'ai...
C'est tout à fait ça, c'est ça. L'Indien.
C'est pour ça, alors quand j'ai lu derrière, parce que voilà, il faut savoir que Marlène nous a proposé plein de prix suivant nos années. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, wow, New York, ces personnages en couleur, moi qui adore cette ville, je vais choisir ça. Bon, disons que les autres étaient un peu plus... ouais, me donnaient moins envie aussi.
T'as des regrets ?
Non, mais c'est un peu long, lent. Voilà, c'est très bien écrit, c'est un peu long, lent. Mais voilà, je suis un peu comme vous, voilà, un très beau style, très bien écrit. Bon, après, j'ai eu ça du mal à prendre, quoi. C'est très long, quoi. Alors, en fait, il nous raconte la décrépitude de New York. Hein, il nous parle de l'enfer de la ville, de l'enfer des gens, de la décadence, de la lutte des classes, de la corruption des édiles, des rapports ethniques. Mais tout ça, c'est en second plan. On reste sur ces trois personnages-là, avec cet indien qui est complètement amoureux de cette femme sociologue aveugle et qui, elle, pendant ce temps, va coucher plutôt avec Ashton Misha. Qu'elle soit d'accord ou pas d'accord d'ailleurs, donc c'est un peu déroutant. Voilà, donc c'est là une personne qui voit pas, qui attise les convoitises, mais ça la dérange pas plus que ça parce qu'elle est quand même libérée. Enfin, des fois ça la dérange, c'est un peu voilà, c'est entre 2, 3, 4.
Petit côté malsain.
C'est un peu malsain, voilà. On arrive aussi à.
José et Marie, un peu là.
Le livre centré.
Mais c'est, mais c'est moins. Voilà, et on voit l'apparition de la drogue à New York, de ce fléau dans le métro. Voilà, c'est un peu tout ça. C'est dur à raconter, ça se lit, quoi. Ça se vit plus que ça se raconte. Voilà, et ça finit aussi parce que, donc, comme c'est un indien Cheyenne, ça parle aussi un peu de spiritualité. Il y a des chiens qui quittent la ville et tout d'un coup qui vont revenir à la fin du livre pour agresser les gens. Alors là, on se croit partir dans de la science-fiction, mais ça n'en est pas vraiment. C'est un peu étrange. Et on reste toujours sur ces trois personnages-là, dont le Polonais qu'on perd en cours de route parce qu'il vend son corps à 7 000 $, ses organes, pour quand il mourra. Sauf qu'à un moment, il décide de mourir parce que voilà. C'est un peu étrange.
Non, à peine.
Mais voilà, mais après, on suit c'est surtout sur John l'Enfer, ce Cheyenne, on le suit constamment, donc avec cette Dorothy, son licenciement. Il trouve un appartement, un grand gratte-ciel, ils sont quasiment tous inoccupés, parce que les gens fuient cette ville qui se fissure, où on colmate avec du béton, mais on voit toujours derrière la pourriture. Voilà. C'est vachement symbole. C'est vachement symbolique. Donc voilà, mais c'est beaucoup moins trash que vous. Hein. Peut-être que quand je le raconte, ça paraît. Mais c'est vraiment sur cette histoire à trois qu'on suit, et c'est très lent, quoi. Voilà, le matelot, il va pour rechercher un bateau. Non, parce qu'il est trop vieux, donc il revient, mais il ne revient pas dormir. Du coup, les autres s'inquiètent. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais lui changer ses pansements. Voilà,
c'est ça. Tout prend des plombes.
Tout prend des plombes. Et donc, du coup, on lui a dit, tiens, toi, tu vas être président du concours. Là. Ça va être nickel. Voilà.
Wow.
Non, mais je préfère avoir lu, à vous entendre, mon livre que le vôtre.
Pour l'instant.
Un passage. Pour l'instant, oui, parce qu'on n'a pas fini.
On n'a pas fini.
C'est, ouais. D'ailleurs, juste un mot sur le Goncourt, parce que voilà, j'ai des petites anecdotes.
Uh-huh. Hein,
j'avais préparé des jeux, mais on va pas en faire, on va juste les donner comme ça. Savez-vous combien gagne le lauréat du Goncourt ?
5000 francs.
Comment tu sais ça ?
Parce que je le sais.
Alors, c'était 5000 francs, mais c'était plus 5000 francs.
Oui, mais nos années, c'était les années de naissance.
Ah oui, non, c'était 5000 francs. Mais en 1960, du fait de l'inflation, la dotation est passée à 50 francs. Et aujourd'hui, c'est...
En ancien franc, ça fait 50 francs.
10 euros aujourd'hui.
Ah ouais, c'est complètement symbolique, quoi.
Ouais. Alors, autre question. Il y a un écrivain qui l'a gagné deux fois. Normalement, c'est interdit. Sauf que c'était...
Émile Ajar et Romain Gary.
Oui.
Exactement. Bravo, Valérie.
Ouais. C'est le seul écrivain qui est de nom, à part...
Il y en a d'autres qui avaient deux noms.
Oui, mais pas caché. Les autres, on sait qu'ils ont des hétéronymes, mais le Émile Ajar et...
Oui.
Lui, c'était un véritable...
Oui. C'est vrai. Ouais. Émile Ajar pour Les Racines du Ciel. Non, pour son nom usuel, pour La Vie Devant Soi. C'est pour La Vie Devant Soi au 75.
Romain Gary, c'est Romain Gary, ça.
Non, La Vie Devant Soi, c'est Émile Ajar.
Ah bon ?
Et Les Racines du Ciel, c'est Romain Gary. Ah, et peut-être que maintenant, quand il a pris, Romain Gary, il remet Romain Gary.
Oui, il y a les deux.
C'est possible, oui.
Tu n'avais pas cette année au brevet ou un truc comme ça ?
Ah, peut-être.
Il n'a pas eu lieu, le brevet, encore.
Oui, il a lieu, celui de l'année dernière. Il a lieu dans une semaine.
Ouf, 8
jours.
Vous n'avez rien entendu. Ah oui, parce que toi, tu as fait les plis, c'est ça ?
C'est ça. Aïe. Mais je croyais qu'on pouvait le dire. Bah, on est rediffusé, t'as ça, on n'est pas en direct. Si. Oups.
Si, on est en direct.
Oui, pardon.
On peut pas.
Vous savez ce qu'il faut réviser, les enfants.
Et voilà, c'est ça. Enfin, difficile de refuser ce précieux sésame. Pourtant, un écrivain l'a fait en 1951.
Oh, 51, c'est chaud. Ouais,
non, mais vous trouverez pas. 51. Il y a que Nico. Julien Gracq, Le Rivage des Sirtes, son troisième livre. Et lui, il a dit qu'il le refusait car il regrettait que les critiques s'intéressent plus à l'auteur qu'à l'œuvre en elle-même, avait-il expliqué dans un pamphlet un an plus tôt.
Bah, il ne pourrait pas supporter 2023, alors.
Ouais, ça c'est sûr. Voilà, juste au passage, tiens, on va finir par un Lozérien qui nous est cher.
Lozérien gardois, donc ça va quand même.
Ouais,
espagnol,
d'origine espagnole. Il est né à Madrid quand même, en 1933. Et son père qui s'appelait comment ? Michel.
Non, il s'appelait Michel aussi, non ? Son père s'appelait pas Michel.
Michel Janicot.
Ah oui, exact. Ouais.
Hein ? Comme le quartier de Janicot.
Ah, mais ça a à voir, non ? J'espère pas.
J'imagine que oui.
Ah ben, j'espère pas.
Ah ben, je ne sais pas, mais je pense.
S'il n'était pas gentil.
Non, il a quitté son épouse, il ne s'occupe plus de son fils, mais sa mère, pas terrible non plus, parce que sa mère,
Elle l'a dénoncé,
ouais. Je ne sais plus quelle année.
Michel Del Castillo.
J'avais vu.
Oui, t'avais vu, mais nos auditeurs ne voient pas puisqu'on a coupé les caméras dans le studio.
C'est ça. Alors oui, juste pour vite, pour Mande, il s'est fait, sa mère s'est fait interner au camp de Rue Crosamande avec Michel. Mm. D'ailleurs, ça lui a donné une histoire dans Tanguy, le roman qu'il a fait connaître. Donc il s'est évadé et il a été livré en otage par sa propre mère aux Allemands et envoyé en Allemagne dans des fermes de travail jusqu'à la fin de la guerre.
Sachant qu'il avait 10 ans, donc déjà le père était pas... Il avait 10 ans. Le père de Michel Del Castillo avait quitté l'Espagne, avait quitté Madrid. Du coup, la mère et Michel Del Castillo ont tenté de fuir l'Espagne franquiste. Enfin, on était sur la fin du franquisme. Enfin, je pense qu'on était sur la chute de Franco.
C'est ça.
Mais ils ont été rejoindre le père en France, qui, même s'il ne les a pas accueillis à bras ouverts, les a un peu aidés. Ouais. Mais il les a quand même balancés donc, au camp d'internement de Rio Cross, à Manda.
Sachant qu'elle était proche du Parti républicain aussi, elle a été emprisonnée par ces mêmes républicains en 1936-1937 parce qu'elle s'inquiétait du sort des prisonniers politiques.
Ouais. C'est ce que j'avais vu aussi. Donc, c'est pas un environnement extraordinaire. Moi, au départ, je me suis dit, heureusement, il avait sa mère. J'ai pas été au bout du livre parce que je me suis plus intéressée à sa vie
Après, évidemment.
Qu'à ce livre. Mais j'ai plus eu envie de lire Tanguy. Mais ouais. C'est quand même incroyable. Il est envoyé en Allemagne. Il s'évade, non, c'est ça?
Il s'évade du camp de Rieucros.
Ah, de Rieucros, oui, pardon.
Mais après, non, en Allemagne... Non, je crois qu'il...
Je sais pas.
Il s'en évade rapatrié si, en 1949, il s'évade, oui. Ouais. Si, absolument.
Enfin, c'est juste incroyable. Et, déjà, de partir de là, oui, on se dit il peut écrire rien qu'une biographie.
Oui, et déjà, il y a de la matière.
Quoi, voilà. Ouais. Et là, donc, c'est la nuit du décret, parce qu'il a écrit de nombreux romans et essais ou nouvelles. Et la nuit du décret, donc Michel Del Castillo, qui est toujours de ce monde, et qui vit dans le Gard, maintenant, j'ai vu à la Calmette.
Et je croyais qu'il était mort et il n'est pas mort.
Eh bien non.
D'accord, voilà,
donc
super.
S'il veut venir faire une après-midi à la radio avec nous pour nous parler de son œuvre.
Mais là, il est âgé, 1933.
Ouais, ça fait 100. Non, ça fait 90, pardon. Je crois qu'on était en 1933. Ouais. Bon, ça va, ça passe.
Ouais.
Et voilà, donc là, c'est un polar. Alors, autant celui d'avant, j'ai trouvé l'écriture très, très douce, très belle, très, très soutenue. Là, c'est vraiment écrit. Alors, c'est pour ça que j'ai la curiosité de lire d'autres livres de lui, parce que c'est vraiment écrit façon polar, avec des phrases très courtes, très
hyper rythmé,
jeu, ta 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 ta, enfin c'est très et j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire que j'ai pas terminé, donc aucun risque de spoil, où on suit l'histoire d'un jeune policier donc espagnol. On est l'histoire se déroule intégralement donc dans l'Espagne franquiste, et c'est un jeune espagnol qui vient de se marier, enfin voilà, jeune bleu, on pourrait dire, c'est ça, qui est muté donc dans le nord, Huesca, dans le nord du pays, et qui est très enthousiaste à l'idée d'aller rejoindre donc cette brigade, et notamment d'aller faire la connaissance de son nouveau collègue et chef qui s'appelle Avelino Pared. Et parce qu'il y a tout un tas de rumeurs autour de ce chef, il se raconte beaucoup d'histoires. On est vraiment dans la période franquiste, donc on ne sait pas qui est quoi, qui est pour, qui est contre. Les choses ne sont pas très très claires entre ce qu'on est au travail par rapport au devoir de travail et ce qu'on pense vraiment. Est-ce qu'on a le droit de réprimer ou d'exprimer en dehors de son service? Et ce jeune, en fait, va enquêter sur ce Laszlo, mais c'était le livre d'avant, sur ce Avelino. Et il va découvrir tout un tas de choses. Et j'arrive pas à... Enfin, j'ai pas été au bout, j'ai pas encore saisi vraiment qui était cet Avelino Pared, mais il est... On sent que dans les descriptions que c'est quelqu'un qui a des secrets, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour les conserver. On sent qu'il se trame des choses, mais moi, j'ai pas réussi à le... Tous les personnages autour de cet Avelino Pared semblent être contre lui. Que c'est quelqu'un de mauvais, que c'est vraiment le mauvais flic un peu à la Maxime Chatham là, dans ses livres de policiers qui font peur, avait toujours, enfin, où il y a toujours le flic méchant. Et là, en fait, comme il y a ce côté politique derrière, on ne sait pas, en fait, est-ce qu'il est gentil,
est-ce qu'il cache plutôt une révolte,
voilà. Oui, c'est ça. Enfin, oui. Est-ce qu'en cachette, finalement, il aide pas, oui. À un moment donné, il trouve le jeune Santiago, le qui vient d'être muté avec Avelino Pared, ils arrivent à trouver la planque d'un imprimeur qui imprime des tracts, évidemment, contre révolutionnaires. Et au lieu de l'interpeller de suite, alors que cette Avelino Pared, c'est un gros gaillard, enfin, qui peut gérer ça, j'allais dire, tout seul avec ses deux mains, il dit non, on va continuer à le traquer. Et en même temps, il se rend compte que entre Avelino Pared et cet imprimeur qu'il faut arrêter, qu'il faut condamner, qui va être d'ailleurs ensuite condamné à mort, il y a comme une affection qui se passe entre les deux, et il ne comprend pas. Il se dit, mince, normalement, mon chef, il est... Il respecte, il est... et voilà. Et tout ça, moi, ça me perd. Bon, j'irai au bout du livre. Et c'est très, très intéressant, parce qu'en plus, on ne sait pas au bout d'un moment si c'est de la fiction ou pas, tellement c'est écrit court, enfin, c'est écrit comme on pourrait le raconter.
C'est tiré de certains de ses souvenirs, j'imagine.
Bah, et puis oui, il y a des traces historiques, qui, sûrement des histoires comparables.
Ouais, non, c'est puis la façon dont il décrit les gens, dont il décrit les lieux, enfin ça, c'est bref, il n'y a pas ces écritures longues comme on a pu parler de nos trois autres romans primés. Donc peut-être que moi c'est un Renaudot.
Toi c'est un
Renaudot aussi, ouais. Bon, c'était on a un peu de.
Mais ça semble plus moderne.
Complètement.
Tu aurais pu nous dire ça a été écrit récemment, oui. Alors que le mien, par exemple, et celui dont tu parlais avant, on sent bien c'est d'une autre époque.
Début 80. Quoi.
Celui-là, la façon dont tu le présentes, en tout cas, il semble tout à fait encore d'actualité.
Complètement. D'autant plus d'actualité que on a sa chambre d'international par moment ou autre. Même si le sujet est des années 70, oui. Mais la façon dont c'est écrit, elle ressemble plus effectivement au roman d'aujourd'hui. Après, qu'est-ce qui va être d'époque ? Ça va être un peu la façon de vivre, façon de vivre en Espagne à cette période-là. Mais à part ça, effectivement, c'est plus rythmé, mais c'est plus saccadé. Enfin, je pensais pas que ce serait. C'est même pas un polar, c'est plus un livre. C'est plus une histoire sur les policiers de cette époque, avec une enquête dedans, comme vraiment un polar au sens.
Oui, tu cherches pas à dénouer l'intrigue forcément comme dans un pur polar.
On a envie de comprendre quand même ce mystère qui entoure cet Avelino Parede, et ça donnerait envie de chercher, voir si. Si effectivement, où est-ce qu'il n'a pas existé, très certainement, il y a dû avoir quelqu'un de cette trempe-là. Et pourquoi est-ce que, là où il est passé, quand les gens en parlent, tu sens un peu comme une ombre passée. Enfin, il y a quelque chose, ouais. Voilà. Donc effectivement, ça... moi, Michel Del Castillo, outre le fait qu'il y ait une école qui porte son nom, qui soit passée au camp de Rieu Cros, ça me donne envie, ouais. Ça me donne envie de notamment Tanguy, oui. Son premier, ça me donne envie d'aller plus loin dans sa découverte. Donc très bonne pioche, ce prix Renaudot 1981.
Allez, 1 sur 4.
Eh bien voilà, et on finira sur une bonne note cette année littéraire avec Michel Del Castillo qu'il faudra inviter.
Oui, complètement.
Oui, pour venir nous lire des livres à l'école.
Del Castillo. Super. Bon, je pense qu'il faudrait se renseigner, mais à mon avis, il a déjà dû.
Oui, il a dû arrêter d'écrire tout ça.
Oui, mais il a déjà dû venir.
Ah oui, j'imagine. Ouais. Ben, au moins pour l'inauguration de sa maison. Peut-être pas pour le roman.
De sa maison.
De son école. De son quartier Janico, de tout.
Et le quartier Janico, si c'est vraiment un hommage à son père, c'est glauque.
Ça veut dire quelque chose, Janico. À mon avis, c'est de l'occitan.
Je sais pas.
En tout cas, ça s'écrit pareil.
C'est vrai.
Eh bien, écoutez, on va regarder, on va le bosser. Et à la première émission de la rentrée, on vous dira ce qu'il en est.
Si on y pense.
C'est ta mission. Moi, je n'y penserai plus.
C'est ta mission. Ton émission, on ne dit pas ta mission.
C'est mon émission, c'est ta mission.
Je fais semblant de ne pas entendre et de passer sous un tunnel parce que je vais oublier, je n'ai rien de quoi noter.
Ah, zut. Oui. Merci pour cette année d'émission, les filles. On se retrouve en septembre après une belle, de belles vacances.
Oui.
Hein,
c'est comme ça. Plaisir.
Allez, et comme dirait l'autre.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait, oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.